C'est grâce au Toldot. C'est pourquoi le verset dit « Elle est Toldot noire, le noir est pour elle. » C'est ce Toldot qui m'a sauvé. Et ça, j'allais vous dire. Laquelle? Non, c'est Moshe qui dit « Imna matzati chen ben. » C'est Moshe qui dit « Si je trouvais grâce à Dieu. » C'est la même expression. C'est-à-dire c'est gratuit. Mais alors, je vais commencer la même. La confusion, et je vais vous dire en filigrane, dans notre culture générale, je ne vais pas dire profane, mais dans la culture générale française, c'est la fameuse controverse entre Pascal et les jésuites sur la grâce suffisante, la grâce arbitraire, la grâce nécessaire, la grâce efficace, la grâce... Vous connaissez toutes ces choses là. Vous avez étudié ça, je suppose, vous préparez le bâtiment. Port-Royal, ça vous dit quelque chose. Maintenant, il y a le centre agile. Et alors... il y a cette confusion entre gratuit et arbitraire. Dire que c'est gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire que c'est arbitraire. Est-ce que c'est clair? Voilà, on arrive à la réponse. C'est-à-dire, Matzahé, mais ce n'est pas n'importe qui trouve grâce. Par exemple, la reine Esther. La reine Esther a trouvé grâce aux yeux d'Assuérus. Alors, okay, c'est pour rien. C'est qu'elle était belle. Il y a une raison. Elle était plus que belle d'ailleurs, mais il y a une raison. Et pourtant, grâce, elle a trouvé. Alors voilà, il suffit vraiment de réfléchir à ces deux notions, à les distinguer, gratuit et arbitraire. Alors, je ne dis pas que toutes les tendances de la théologie chrétienne s'en tiennent à la définition de la grâce arbitraire. C'est surtout les protestants. Chez les catholiques, ça a été l'hérésie, entre guillemets, du jansénisme. Okay, mais enfin, c'est en tout cas évangélique. Et à ce niveau-là, les protestants sont certainement beaucoup plus chrétiens que les catholiques. Je vous dirais d'une autre manière, dans cette controverse entre Pascal et les jésuites, qui ont pratiquement, je ne sais pas s'ils m'ont excommunié à Pascal, mais enfin, ils auraient eu bien envie. Okay, c'était les jésuites qui avaient raison, mais c'est Pascal qui avait le génie. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que c'était une tendance hérétique du point de vue catholique, qui allait surtout dans le sens de la théologie protestante et plus luthérienne que calviniste d'ailleurs, mais enfin dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas les œuvres, les mitzvot, comme nous disons, les maasim, qui établissent le mérite de l'homme, pour qu'on l'appelle tzadik, c'est la grâce arbitraire de Dieu qui décide celui-là est sauvé, celui-là est perdu. Lisez les textes chrétiens. Et ça suffira pour en être convaincu. Et ça commence à l'apôtre Paul. Hein. Il dit, si les œuvres ont un mérite quelconque, alors tout ce qu'il raconte, tout ce qui s'est passé dans la passion, n'a servi à rien. Hein. Ceci dit, pas tout n'est permis. Non, je ne dirais plus, je crois que Saint Augustin ou Saint Thomas, je ne sais plus. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ça veut dire qu'il y a quand même une politesse, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. En principe, ce n'est pas les œuvres qui sauvent. C'est, certains théologiens tardifs diront la foi, mais la théologie orthodoxe de l'Église dit la grâce, c'est-à-dire que Dieu a décidé de façon arbitraire. Toi tu sauvais, toi tu peux. Les élus, les appelés, vous savez comment ils appellent ça. Les réprouvés et les élus. Alors le judaïsme s'oppose absolument. Ça fait un Dieu monstrueux. Okay, en tout cas, si Dieu était ainsi, que Yahol, il ne nous aurait pas révélé une Torah qui parle du bien et du mal. Il nous aurait révélé, je ne sais pas, un bréviaire magique. Du sacré. Quelque chose qui ressemble un peu à la théologie chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Dieu n'en parle à Torah, n'a rien à voir avec ces mentalités païennes qui ont été projetées à travers la culture grecque et romaine sur la vie hébraïque. Voilà. Je parle du christianisme en propre terme. Alors c'est un monde très nuancé, vous avez énormément d'églises, énormément de nuances, énormément de chitons. Mais grosso modo, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est sauvé par grâce. Alors bien sûr, il faut laisser une place aux œuvres, au mérite, mais ce n'est pas le mérite qui sauve, c'est la grâce, et c'est arbitraire à la limite. Alors on sait bien que les théologiens chrétiens ont un problème avec ça, ils essaient de récupérer quelque chose de non arbitraire. Ben, c'est trop arbitraire. C'est clair, mais ça va dans ce sens. Tandis que l'atmosphère du siècle que nous visons, c'est que c'est gratuit. Les contemporains de Noir ne comprendront jamais pourquoi lui est rescapé et pas d'autres. Il y a d'autres tzadikim du même genre. Je vous ai cité Maître Chagrin. c'est parce qu'il porte en lui la possibilité, le Koach, en potentiel d'Abraham qu'il est sauvé. Il y a une raison que Dieu seul connaît, mais que Noach ne doit connaître, et que les contemporains de Noach ne doivent pas connaître. Gratuit, c'est gratuit, mais arbitraire, c'est pas arbitraire. Alors, s'il vous plaît, il faut relire le verset simplement, tout de suite, après qu'on nous ait dit que Noach Matzachem Bene Hachem, le verset dit, elle est toldot, et voici les engendrements de Noach. C'est les engendrements de Noach qui expliquent pourquoi Noach a trouvé grâce. Et je vais vous montrer par un remez du drash. Jusque là, c'est pshat, ce que je vous ai expliqué. Vous comprenez la différence entre le pshat et le drash, hein? Regardez bien. Le mot de bracha avait disparu du texte quand Caïn a tué Abel. Le mot de bénédiction disparaît du texte. Et puis, le mot de bénédiction va revenir, et va revenir avec profusion, avec Abraham. Et avec Abraham, dont Dieu va lui dire, tu seras la bénédiction, Vehei Bracha. Alors reprenez le verset qu'a cité Rashi, Zecher Tzadik Le Bracha. C'est clair, vous avez compris le drash? On a mentionné ce Tzadik qui est noir en vue d'Abraham qui est la Bracha. Zecher Tzadik Le Bracha. C'est clair? Alors là, nous abordons un principe talmudique. Je ne me rappelle plus la référence, mais peut-être tu pourras la rappeler. Le Talmud dit, c'est un arméen à trois mots. Bera Mezake Abba. Le fils peut faire mériter le père. C'est un sujet pour lui-même est très important. D'ailleurs, les enfants, les enfants peuvent faire mériter les parents a posteriori. Mais Dieu seul le sait à l'avance. Je vais raconter une histoire du folklore yiddish d'ailleurs. C'est dans les petites. Comment ça s'appelle les petites bourgades les gosses, on les appelait le Kaddish. Alors vous voyez la scène au balcon, il y a Sarah qui appelle Rebecca, qui dit Rebecca, descends, ton Kaddish s'est cassé la figure. Vous voyez pourquoi on appelle le gosse le Kaddish? Parce qu'il porte en eux une responsabilité terrible de pouvoir, a posteriori, justifier ou condamner toute leur ascendance. Ça dépend, oui, tous les ancêtres ont les yeux fixés sur le dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va finalement faire ça à Alia ou pas? Et grâce à Dieu, il y en a qui l'a fait. Non, mais je ne dis pas des blagues, c'est du sionisme. Et alors, ça veut dire que, bon, je crois que vous avez compris, il y a en potentiel chez le père ce que le fils deviendra. Mais c'est ce que deviendra le fils qui dira ce qu'était le potentiel du père. Vous avez compris? Alors c'est pourquoi il ne faut jamais perdre espoir jusqu'au dernier descendant. Vous n'attendiez pas cette chute. Et alors, vous me direz ceux qui n'ont pas d'enfants. Réponse? Il y a une réponse. Tu diras la réponse. Ça me dit le Kébani, bien fait. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir. Bon, ça peut s'appeler un fils adoptif. Et il suffit d'avoir un élève, c'est comme si c'était un enfant. C'est halakha, hein, ne croyez pas que c'est un âge. On va le voir d'ailleurs dans la deuxième explication de Rashi. Rashi déjà fait allusion à cela. C'est-à-dire, tant que nous sommes encore au stade où les engendrements doivent enfanter l'identité d'Israël, engendrer, pas enfanter, enfanter c'est les mères, les pères c'est engendrer. Alors, la raison qui a fait quand on nous a dit que Noach est tzadik, c'est dans la dot. Mais maintenant Israël est engendré. Alors il y a une deuxième explication de Rashi. D'abord, suivez sur Rashi. Deuxième explication. De la mettra, chez Ikar, Tolerote, Mshet Tzadikim, Marasim Tobi. Que l'essentiel des engendrements, et il faut lire ici de l'histoire, des tzadikim, c'est leur bonne œuvre. Alors, oui, la réponse que je vous propose, l'explication que je vous propose, c'est que ces deux explications étaient nécessaires. Avant que les Toladot n'aient amené à l'identité d'Israël, hein, c'est les Toladot qui font que, en potentiel, Noach devait être sauvé. Okay. Mais maintenant, dans le deuxième cas, Israël existe. On a peu à faire de soucis pour les Toladot. Le Mashiach viendra d'Israël. Même s'il n'y en a qu'une famille, ça suffit. Et grâce à Dieu, on en a plus qu'une famille en Israël. Okay. Alors, quel est le mérite des tzadikim? C'est leur maasim. C'est clair? Vous avez bien compris ça? Donc, C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas d'enfants dans l'ordre des Toladot, ils ont des enfants dans l'ordre des Maasim. Et je suis à peu près certain, je n'ai pas de souvenir, donc je donne ça tout de suite réserve, que c'était la Kavanat Rashi quand il a donné ces deux explications à la fois. Chaque fois qu'il y a un Davar Acher, c'est que la première explication est nécessaire mais pas suffisante. Et que la deuxième explication n'aurait pas de sens toute seule. Alors on donne la première d'abord, mais ça ne suffit pas, il faut donner aussi la deuxième. Bien. Alors voilà donc la première analyse concernant l'identité du tzaddik. Je vous rappelle, le problème général, c'est qu'il nous faut une définition du tzaddik à l'échelle universelle. Maintenant, dans le cas particulier de Noé, il y avait une question importante à élucider. Pourquoi Noé a été sauvé? En fait, l'expression qui arrive là, enfin le principe qui arrive là, et je crois que c'est relié à ta question tout à l'heure à propos de Moïse qui a trouvé grâce. Hein. En principe, ne peut être sauvé que quelqu'un qui est capable d'être sauveur. Et s'il n'est pas capable d'être sauveur, c'est qu'il a trouvé grâce. Et on voit cela dans l'implication de la demande de Moïse. Je ne suis pas capable d'être un sauveur, sauve-moi, quand même.
Tu comprends toi, je t'ai dit.
Non, il dit, il n'a pas de sauveur. C'est un problème que Moshe n'a pas pu faire entrer sa génération en Eretz Israël. Et alors c'est Odiaïna de Vachecha, tout ce problème de Kikissa, que vous allez étudier bientôt dans les parachutes, à propos de la faute du Vodou. Ça veut dire que, étant donné que la génération de Moïse était responsable a démérité, alors semble-t-il il n'a pas le mérite de les sauver vraiment, hein, mais il demande à Dieu d'intercéder. Il intercède et demande à Dieu de continuer le premier plan, que c'est Dieu lui-même qui dirige le peuple et pas un malheur. Vous vous rappelez de ça? C'est pourquoi il dit « Namatsati ». Bon, je referme la parenthèse, c'est un autre sujet. Je veux dire, c'est quelque chose de très important sur l'identité de Moshe. Comment la fille de Pharaon a appelé Moshe, d'après la Torah, « sauver des eaux ». Ben c'est pas vrai, c'est sauveur, Moshe, sinon c'est ma chouille. C'est clair. C'est parce qu'il était capable d'être sauveur qu'il a été sauvé. Alors, vous voyez donc quel était le... Ça, nous verrons que ça commence avec Abraham. Vous voyez donc la responsabilité qui se relie à cette question du salut. Alors encore une fois, puisque nous sortons sur une génération qui sort de la Shoah, encore une fois, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure sur votre problème, il ne faut pas faire d'analogie. C'est qu'il y a un très grand problème des rescapés de la Shoah. Pourquoi sommes-nous rescapés? Quelle est notre responsabilité? C'est vécu de façon très profonde et très traumatisée, disons, par tous ces rescapés. Je ne sais pas si vous savez à quel point le résultat de la Shoah se fait encore sentir à ce niveau-là, de façon très très profonde et parfois chez des descendants qui n'ont pas connu du tout les événements, et même dans des familles juives qui n'étaient même pas en Europe. Et donc, il ne faut pas trop approfondir ces choses-là tant qu'on est contemporain, bien évidemment. Enfin, là, il y a un problème à l'échelle générale qui est très important. Pourquoi Israël est sauvé en général? C'est parce qu'il a l'identité du sauveur, sinon il ne serait pas sauvé. Bien, voilà donc la première analyse sur les premières questions. Il nous reste 10 minutes, si vous avez. Écoutez, ça, je vous propose d'étudier ça plus en détail la fois prochaine. Il y a 4 niveaux. Il y a Yachar, Tzadik, Hassid, Kadosh, et on les étudiera très en détail. Rappelez dans la tefila de Shabbat et de Yom Tov, dans le Nishmat Kol Chai, vous avez ça qui est mis en évidence, Rachetorot, Yitzhak, Défi Yacharim. Alors nous verrons quelle est la différence. Mais pour le moment, j'ai indiqué que, au début, que la notion de Tzadik implique deux problèmes préalables. Premièrement, la connaissance d'une Torah. On est Tzadik au niveau d'une règle. Le problème de l'intention et de l'acte est encore un autre problème. On est défini comme tzaddik au niveau des actes. Si les actes sont conformes à la règle, alors on l'appelle tzaddik comme nous, okay? Quelles que soient les intentions. Ceci dit, il y a un niveau de l'être. Ça, c'est le grand chidouche de l'enseignement du Rav Kook, qui nous a habitués à pouvoir comprendre ces problèmes. Dans la civilisation occidentale, on est habitué qu'à l'idée du mérite d'acte. Mais il faut retrouver cette notion qu'on a perdue dans la galoute, qui est une notion du mérite d'être. Et le mérite d'être, une notion difficile dans la philosophie générale. Elle n'a pas de... je ne connais pas du tout, enfin, je n'ai pas lu tous les philosophes, grâce à Dieu, mais je ne connais pas du tout de philosophie qui soit approchée de ce problème-là. Et c'est plein de pièges, parce que le mérite d'être, c'est une notion à manier avec beaucoup de précaution, sinon on tombe dans le racisme. Je vais vous donner un exemple. Je suis toujours frappé par ces comparaisons du Midrash à beaucoup de fleurs. Vous avez des roses, vous avez des marguerites, vous avez... Alors, est-ce qu'il y a un mérite d'être rose différent d'un mérite d'être marguerite? Et être marguerite, c'est génial. Aucune rose n'arrive à être marguerite. Et être rose, c'est génial. Aucune marguerite n'arrive à être rose. Mais donc, il y a un mérite d'être qui nous dépasse, c'est mystérieux. De la même cellule originelle, ça sort finalement une rose ou une marguerite. Il y a un mérite d'être. Au niveau du mérite d'être, c'est l'attitude de la volonté. Le mérite d'être au niveau du tzaddik, c'est que sa volonté préfère systématiquement, généralement, son bien à son mal. Le rachat, c'est l'inverse. C'est pourquoi nous avons un grand plan dans le Midrash. Quand on voit un tzaddik, connu comme tzaddik au niveau du mérite d'être, avec une action qui apparemment est l'action d'un rachat, on sait que c'est une action de tzaddik, pas de rachat. J'ai compris le plan. Okay. C'est-à-dire, si on voit Esaü faire du bien, il faut comprendre en quoi c'est du mal. Par exemple, à un certain moment, Esaü veut embrasser Jacob. Le Midrash dit, il veut le mordre. Il lui dit, je t'aime, je t'adore, je te dévorerai. Et c'est ok. Le dialogue judéo-chrétien. Bien, je vois, c'est clair. Le Midrash le dit, le furieux, il a voulu le mordre, il n'a pas voulu l'embrasser. Il a voulu l'avaler. Ou bien, si vous voyez Jacob, le texte dit Bah Hicha be Mirma, Rashi intervient, Be Chokma. Si on voit un juste faire quelque chose qui apparemment est un mal, il faut savoir que c'est un bien. Et si on voit un méchant faire quelque chose qui apparemment est un bien, il faut savoir que c'est un mal. Bon, c'est un niveau de lucidité effrayante. Okay? Mais en fin de compte, ça ne peut être compris que par rapport à cette distinction, le mérite d'être et le mérite des actes. En fin de compte, les actes se récapitulent en être. Mais ponctuellement, chaque acte peut être défini comme un ma'asé tov. Le fait d'être sadique, c'est plus général, c'est récapitulé au niveau de l'attitude de la volonté. Alors, encore une fois, pour un problème, et quelle que soit la loi, la table des valeurs à laquelle on se confronte, on peut être sadique chez les Esquimaux, on peut être sadique chez les Sud-Africains. Même les noirs, même les blancs, les égaux. Et ça dépend, encore une fois, de l'attitude de la volonté et du minimum de bonne foi et de bonne volonté. Et c'est pourquoi les nazis doivent être plus. Ils ne peuvent pas plaider en disant mais le bon Dieu m'a fait régner, nazi, crabe. Okay? Non, il y a l'attitude de la volonté. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ce qu'il fait. Vous rappelez au radeau. Okay. La faute, c'était d'avoir accepté d'être nazi à l'origine. Vous allez me dire, mais ça va loin, mais ça voulait dire avoir accepté d'être allemand, puisque le nazisme est sorti de l'identité allemande. Ça ne veut pas dire que les autres européens n'auraient pas pu l'être, ils auraient pu l'être. Et puis, mais finalement, c'est les Allemands qui ont été aidés à cela par leur tendance germanique, je suppose. Et en Calais, ça a beaucoup étudié cela. Vous avez entendu parler de Vladimir Lenkelevich, un grand philosophe. Et vous allez me dire que ça va encore plus loin, c'est d'avoir choisi d'être européen. Eh oui, et il faut réfléchir jusque-là. Okay. Quand un homme, avant sa naissance, bon, ça c'est un Midrash mystérieux, avant qu'un homme ne naisse, Dieu lui propose sa destinée, si je veux dire, il dit d'accord, je te crée, tu n'es pas d'accord, je te crée pas, je sais même. Alors si un homme, avant sa naissance, ben, choisit d'être européen, c'est ce qu'il choisit. Vous allez me dire, mais c'est mystérieux ce que tu dis là. Mais bien sûr que c'est mystérieux. Mais essayez de comprendre que chacun n'est que ce qu'il est. On n'est jamais quelqu'un d'autre. Donc ça va émettre quelque chose. Et c'est pas une blague juive, mais on s'est demandé une fois pourquoi il y a 6 de juifs. Bon, il y a deux raisons. D'abord parce qu'on les a massacrés systématiquement. Mais même comme ça, il y en aurait eu très peu. Mais c'est pas qu'il y en a très peu qui, avant la naissance, ont le courage de choisir ça. Très bien, j'attendais ta question. Justement, j'attendais ta question et je t'en remercie. Il ne s'agit pas de prédestination, puisque j'ai dit que Dieu a proposé. Tu veux pas. une gamarade dans le chemin. Hein. Aucune créature, quelle qu'elle soit, elle n'est créée que Nidartha, que si elle accepte ce que Dieu lui propose. Il y a une histoire à réussir. Je vais prendre ça un peu sous forme cinématographique. Il y a un film à faire, le film de l'univers. Eh bien, il y a des rôles différents. Il faut les faire tous. Hein. Alors, le créateur propose la distribution des rôles. Tu veux ce rôle, tu veux pas ce rôle. Mais finalement, il faut faire le film. Une minute. Il y a une très belle image dans un livre d'André Meyer qui s'appelle Jérémie. Vous avez fait un livre sur Jérémie, je ne sais pas si vous appelez ce livre-là. Et à la fin, il y a une très belle page où il décrit cela. À la fin de la représentation théâtrale, on va éteindre les lampions, il dit, la fête est finie, tous les acteurs se tiennent par la main et saluent le public. Et chaque acteur dans l'histoire a un rôle. Et la faute, c'est de se prendre au sérieux. Imaginez, dans le rôle d'une pièce, il y a un rôle d'assassin. Et imaginez que l'acteur qui doit jouer le rôle de l'assassin se prenne au sérieux et devienne assassin. Ben, c'est ça ce qui se passe dans l'histoire, dans l'histoire réelle. Okay. Ça manque d'humour. Okay. Alors, il ne faut jamais oublier ça, qu'à la fin, finalement, les acteurs se tiennent par la main et on applaudit l'auteur. Non, ce n'est pas la hauteur. Bon, réfléchissez à ce thème, je crois que c'est une très belle page que vous avez écrite.
Comment est-ce que, si vous prenez la
parce que sinon, ce serait une martingale à la roulette. On a un rôle à jouer, il ne faut pas penser à quelle est la règle. Il n'y a que ceux qui ont un rôle spécial à qui on révèle la règle. Même les chèques connus, mais lesquels. Non, elle est exacte à mon sens. Je voulais ajouter quelque chose pendant que tu as posé la question, ça m'a échappé, mais que je revienne. Oui, je veux dire que. Voilà, Maïmonide l'a expliqué à propos d'un problème très important concernant la responsabilité des Égyptiens et du Pharaon dans la persécution des Hébreux en Égypte. C'est dans le 8e chapitre des Shemona Prakim de Maïmonide. Dieu a annoncé déjà à Abraham que son peuple sera persécuté par les Égyptiens. Alors pourquoi il les a punis aux Égyptiens? C'est un peu ta question. Bien fait. Alors, Maïmonide répond ceci. En fait, Dieu révèle à Abraham le fonctionnement d'une loi de l'histoire du monde, que je vais interpréter en termes contemporains. Mais vous comprendrez, dans le lâchement de Maïmonide, étudiez-le dans ce texte, l'idée est la même. C'est les catégories qui changent parce qu'ils ne sont plus la même civilisation qu'au temps où ils s'expriment. C'est ceci, culturellement. Imaginons qu'il y a ici le fonctionnement d'une réalité sociologique. Quand une minorité s'entête dans son identité à l'intérieur d'une civilisation étrangère, en fin de compte, par le jeu du fonctionnement des lois sociologiques, il y a un phénomène de rejet de la part de la civilisation dans laquelle on s'entête à rester une minorité étrangère. Okay? Alors Dieu prévient Abraham. Tu as un doute que cette terre est à toi, ta descendance finira par préférer l'exil. Okay? Alors sache, ils seront persécutés. Ça ne veut pas dire que les Égyptiens étaient prédestinés à être méchants. Okay? Et finalement, pourquoi ils vont être punis? Parce qu'ils ont frappé trop fort, trop fort. Imaginez la scène. Je vais vous la raconter comme j'ai l'habitude de la raconter à Mariano, parce que c'est une anecdote vécue. J'ai eu un ami qui vient de décéder il y a quelques années, qui était un professeur à l'université de Berlin, avant l'arrivée de l'hitlérisme. Et lui, il était originellement un juif polonais, qui s'était enfui d'un ghetto de Pologne au moment des persécutions en Pologne. Il arrive en Allemagne, et la promotion sociale habituelle des juifs immigrés, il devient professeur à l'université de Berlin, citoyen allemand. Okay? Et alors, le nazisme commence à arriver, il avait un ami à l'université qui lui dit, Salomon, il s'appelle Salomon, si tu es, méfie-toi, ce qui arrive, c'est très grave pour les juifs, si tu as un oncle en Amérique, va en Amérique, mais quitte là-bas. Et le Salomon en question réagit comme un brave juif de diaspora. Il dit, moi, qu'est-ce qu'on va me faire? Je suis citoyen allemand protégé par les lois allemandes. C'est clair. C'est comme ça que les Français réagissent en France et que les Italiens en Italie et les Marocains en Maroc. Et alors, mais à quel point on peut tromper personne? Alors, l'autre son ami, qu'il aimait bien, insiste. Il dit, mais c'est très grave, je ne veux pas savoir ce que c'est l'hitlérisme pour les Juifs. Et finalement, les Italiens ont fait ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait. Alors l'autre s'entête, il dit, non, je suis allemand. Imaginez, un juif polonais qui est allemand. Bon, c'est un autre profil. Alors justement, c'est ça le fond de l'histoire. À la fin, l'Allemand s'énerve. Il dit, mais si toi tu es Allemand, l'Allemand qu'est-ce que tu es ? Et le Juif, il répond, toi t'es goy. Alors ça veut dire quoi ? Qui c'est l'Allemand ? C'est le Juif polonais. Et l'Allemand, le pauvre, qu'est-ce qu'il est ? Goy. Alors ça, c'est la réaction des Égyptiens. Quand les Hébreux ont dit, c'est nous les Égyptiens. Et on va vous faire voir que c'est un Égyptien. Tout simplement. Alors, c'est ça qui est annoncé à l'avance, là. Ça ne veut pas dire que les goyims sont anti-juifs. C'est qu'ils sont normaux, ils sont goy. C'est-il aussi. Pourquoi ils sont punis ? C'est parce qu'ils ont exagéré. Mais sachez que pendant les 2000 ans de l'exil avant l'émancipation, les juifs s'attendaient à leur sort. Ils savaient très bien que l'exil, c'est la persécution. Et alors ils courbaient les chines, ça passe pas. Et puis finalement, ils ne se sont pas aperçus que c'était devenu autre chose. C'était la solution finale. Et plus simplement la persécution habituelle. Je pense que c'est clair. Et ils avaient des maîtres qui les ont avertis. Ça brûle. Mais ils ont voulu attendre. Et ça continue. Et je viens d'entendre à la radio ce matin un scandale qui est en France parce que Le Pen était en voyage en Amérique et a été reçu dans un grand dîner de gala par les chefs du judaïsme américain. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu à la radio ce matin. Alors, le chef du Congrès juif mondial d'Europe, Théo Klein, pour pas le citer, indigné que les juifs américains ont reçu un anti-juif. Bon, je veux dire, je ne sais pas si Le Pen est anti-juif. D'ailleurs, il s'en défend. Mais il est français. Il a un programme politique français. C'est de sa faute si les juifs sont des étrangers qui se font pour des français. Alors, où il serait puni ? Si vraiment il devenait persécuteur anti-juif. Mais il y a un phénomène de seuil de saturation. Vous avez compris ? Alors, c'est grand guignolesque. Je vais dire une blague pour détendre l'atmosphère. Tout simplement, il donne un avertissement que peut-être un jour la porte va se fermer. Et vous savez, dans toutes les portes, il y a une serrure, et dans les serrures, il y a un Pen. Ah, il s'appelle Le Pen. Voilà. Je crois que le vrai problème, c'est comment devraient se conduire les Juifs. Hein. Quand Moïse vient dire aux Hébreux, ça brûle, et bien, on va commencer à lui dire, mais tu es sioniste. Dieu préserve. Alors, on va dire, ben oui, on rentre chez nous. Alors, non, on commence à dire, est-ce que les Égyptiens ne sont pas peut-être antisémites, okay? Faux problème. Le problème est à l'envers. Surtout quand on lit la Torah. Et on s'aperçoit que ce n'est pas un Égyptien, ce livre-là, c'est un Hébreu. Voilà, mais je vais vous dire, cette explication de Maïmonide est très séduisante. Elle est difficile. Parce que pour que les Égyptiens n'exagèrent pas, il faudrait qu'ils soient des anges. Or, ils ne sont pas des anges, ils sont des Égyptiens. Donc, ça va être difficile. On va les punir parce qu'ils ont exagéré. Mais on les a acculés à l'exagération. Rappelez-vous cette histoire. Quand mon brave juif polonais dit à l'Allemand qu'il est goy. Et que c'était lui l'Allemand. Résultat, la fureur. Malheureusement, c'était au masculin, le fureur. Mais enfin, vous voyez la gravité du problème. Et tout ça, c'est prévu dans le texte. La Torah, déjà, et les prophètes, ne sais j'aime pas vous dire, gare à vous. Si ça vous arrive, ça vous arrive. Alors, on va quand même punir, ça s'appelle la verge de Babel, on va quand même punir la verge de Babel, elle va être brisée parce qu'elle a frappé trop fort. Bon, ça nous fait une belle journée. Bien, voilà, on est arrivé à l'heure, on a même un peu dépassé. Alors rappelez-moi, la prochaine fois, nous reprendrons cette définition du tzaddik pour voir les différents groupes. Merci. Je vais te dire, je vais te dire, je ne sais pas comment ça s'organise. Si on